quand même. Quelque chose qui, voilà, qui nous porte, qui nous emporte et qui nous connecte au divin. Hein. J'aime bien le cantique sur le transfert. Quoi. Il y a quelque chose vraiment qui n'a rien de naturel, mais qui nous permet de vivre la réalité de la présence de Dieu. Alors, on va passer à une nouvelle saison dans le récit dans lequel je vous ai embarqué, dans le deuxième livre des Rois, parce que je crois que nos vies sont faites de ces saisons qu'on n'attend pas, au fond. Enfin, on attend les belles saisons, hein. On attend les bourgeons, les fleurs et les fruits. Y a plein de choses comme ça où on est plein d'espérance. Et quand on est chrétien, voilà, l'espérance nous anime. Quand on a été visité par le Seigneur, quand on a découvert son amour, quand on lui a dit oui et qu'on est parti avec enthousiasme, et puis qu'on a eu cet attouchement divin comme l'a eu cette femme, cet homme pour voir la vie se développer dans leur maison, on attend que ça continue, hein. Et puis parfois on attend tellement que ça continue que on est pris dans un mouvement, dans une activité toujours aussi aisé, toujours en pensant à Dieu, mais on oublie peut-être quelques éléments que Dieu va nous rappeler par une saison plus difficile, plus douloureuse, et c'est ce qui va se passer dans la maison de nos amis. Et donc on va continuer ce texte. Voilà, l'enfant grandit, il est beau, il est en bonne santé, il va travailler au champ avec son père. Donc on va continuer ce texte.
Deux Rois, chapitre 4, verset 18. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre. » Et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit.
Ah, ah, ah. Hein ? Je sais pas à quoi ça vous fait penser, ça. Hein ? Mais combien de fois dans nos vies, d'un coup, soudainement, de façon totalement imprévisible, tout semble vaciller, tout s'écroule. C'est le néant, c'est le drame, c'est le mur, et on ne comprend plus. On ne comprend plus Dieu, on ne comprend plus le sens des promesses, le sens de la bénédiction, et on est là serrant quelque chose qui a pris vie dans nos cœurs, dans nos têtes, quelque chose qui nous a rendu heureux, quelque chose dont on est sûr que c'était bon. Et imaginez cette scène. Cette femme qui a sur ses genoux cet enfant qui agonise. Elle est pleine d'amour pour lui. Il est le fruit de la promesse de Dieu. Il a réjoui son cœur, celui de son mari. Il a grandi. Oui, je l'imagine. Elle le serre dans ses bras. Elle le bénit. Elle le chérit. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est le fruit de la promesse. Il va se passer quelque chose. Et puis, ce texte nous dit que l'enfant meurt. Ça me rappelle aussi l'histoire de Marthe, Marie et Lazare. Vous vous souvenez ? C'était les amis de Jésus. Il était là, à table avec eux. Marthe s'agitait dans la cuisine. Marie était assise à ses pieds. Une scène superbe. Une intimité, une relation extraordinaire. Au point où Jésus dit à Marthe, « Laisse tes fourneaux, tu te donnes beaucoup de peine. » Tiens, on a déjà entendu ça. Et si tu venais là à mes pieds... Alors parfois, on le lit comme un reproche, mais peut-être je me retrouve tellement dans Marthe. Mais j'ai plus l'impression qu'il lui dit... Je vois que tu mets les petits plats dans les grands. Je vois que tu veux que tout soit en ordre parce que tu me reçois avec les miens. Il était avec sa bande de disciples. Et il lui dit, doucement, viens t'asseoir. Tu as le droit à la même part que Marie. Il dit à Marthe qu'elle a choisi la meilleure part, mais je sens à quel point Jésus veut juste qu'elle puisse aussi jouir d'un temps de repos. Voilà, une scène magnifique, une amitié extraordinaire, des semences de vie déposées dans cette maison. Quand on lit l'histoire d'ailleurs de Marthe et Marie, on se rend compte à quel point s'est passé plein de choses pour elle, extraordinaire. Et puis, comme pour cette femme tsunamite, il y a ce moment terrible. Lazare est malade. Jésus est parti avec ses disciples. Élisée et Gazi s'en sont allés vers un autre ministère. Lazare est malade et bénéficie de tout l'amour de ses sœurs comme ce petit sur les genoux de sa mère. Et pourtant, il meurt. C'est fini pour Lazare et pour cet enfant. Combien dans nos vies, combien dans ta vie, certainement, tu as été confronté comme ces personnages bibliques, comme nous, à ce moment où il n'y a plus de transfert. On n'entend plus la voix de Dieu. Voire même ce qui nous parvient est inaudible, n'a aucun sens. Avec même des discours parfois qui font tellement mal. Dieu l'a repris. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai entendu ça dans ma vie. Sorti du contexte. C'est comme un coup de poignard dans le cœur. Vous savez, en 2004, j'ai fait un décollement de rétine sur le... Alors, perception lumineuse de l'œil gauche de naissance et puis un petit dixième de l'œil droit qui s'est transformé en un cinquantième à l'adolescence, puis après, ça n'a plus bougé. Et puis en 2004, pleinement engagée dans le service de Dieu, aux côtés de mon mari, dans le ministère pastoral, dans la mission, dans le service multiforme, malgré mon petit handicap, décollement de rétine. On préparait notre voyage missionnaire en Centrafrique. C'était les grèves. Tout bascule d'un coup. J'appelle Christian, je dis, tu sais, j'ai un décollement de rétine. Il me dit, comment tu le sais ? Bon, écoute, voilà quoi. Je connaissais bien le monde de l'ophtalmologie de par mon parcours. Je dis, écoute, donc une heure après, on était dans le cabinet qui me reçoit et qui me dit, oulala, oui, décollement de rétine, il faudrait vous opérer dans les heures qui viennent, sur un œil déjà bien arrivé, abîmé. Puis en tout cas, voilà, en 15 jours, tout s'effondre. Tout. Les grèves, pas de chirurgien au 15-20, transféré à Rothschild. Pas d'anesthésiste, au lieu d'être opéré en quelques heures, opéré 8 jours après, dans des conditions insoutenables. Et puis le réveil après l'opération, et le professeur qui m'a opéré vient, il me pose la main sur l'épaule, il me dit « je suis vraiment désolée, mais on a dû enlever une partie de la rétine ». Tout est foutu, quoi. En plus, ils avaient piqué le nerf sensitif, morphine, douleur pendant des mois. Et en tout cas, je me souviens à ce moment-là, simplement, je relève la tête dignement. Et puis, je dis, oh, vous savez, un petit peu moins, un petit peu plus. Je suis habituée, ça ira. Tout va bien. Puis, je rentre à la maison et c'était un tout va bien face à quelque chose de difficile entre mon petit cinquantième et puis plus rien. Non, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait faire le deuil de quelque chose auquel j'étais habituée. Et là, ça a été vraiment un tremblement de terre dans notre vie familiale, dans notre ministère. Christian, à mes côtés, je dirais, se battait comme un lion sur le plan spirituel pour tenir l'église. Les enfants accueillis, on était famille d'accueil, la maison était pleine pour garder sa foi intacte. Mais sur le lit, dans la présence de Dieu, il y avait le deuil de quelque chose qui semblait pour moi insupportable à dépasser. Au point où je m'endormais le soir et je disais à Christian, juste avant de m'endormir, on se donnait la main, on priait, je disais, tu sais, la meilleure des choses qui pourrait m'arriver, c'est de m'endormir, c'est de ne pas me réveiller. Et je déprise de quelque chose, d'ailleurs, d'imprévisible. Après tout, ça semblait peut-être pas si grave. Quelqu'un en situation de handicap, j'avais appris le braille, voilà, j'avais vécu avec mon handicap. Ce tout va bien au médecin, je le prononçais de tout mon cœur. C'était une réalité. Je me disais que j'allais m'adapter, que j'allais faire avec. Mais il y avait quelque chose de plus profond qui m'attirait vers quelque chose de terrible. Ces ténèbres, ce tombeau, l'envie de tout lâcher avec des pensées morbides soufflées par l'ennemi de mon âme. Tu vas être un boulet pour ton mari, pour tes enfants. Des mensonges qui prenaient vie, qui prenaient forme. Vous savez, ce moment qu'on vit parfois où tout semble inutile, où on se sent honteux. J'étais honteuse de ne plus voir clair. J'y étais pour rien. Mais ce sentiment de honte m'enveloppait au point où j'avais envie de me cacher, de disparaître. Et je bénis le Seigneur de ce que mon mari a eu la force de m'emmener sur le lit de la bénédiction, je dirais un peu. Je ne voulais même plus aller à l'église. Et il me disait, tu sais, le lieu où tu peux pleurer, le lieu où tu peux te laisser aller, c'est bien à l'église. C'est dans la présence de Dieu. Je disais, mais ils vont penser quoi ? Et il me disait, mais peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils disent. Je disais, mais je sais que je vais avoir des réflexions, qu'on va me dire, mets ta foi en action, on va faire une semaine de jeûne. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Il me disait, bah, tant pis, je serai là pour te protéger. Et il m'a emmenée au culte quand même, quasiment de force. Oh là là, j'étais en colère après lui. Mais en même temps, sa main, au-delà de sa poigne, était douce. C'était celle du Seigneur, c'était les paroles du Seigneur qui voulaient me faire sortir du tombeau. Je crois que cette femme tsunamite, Marthe et Marie sont passées par ces moments qui ne sont pas décrits, mais qu'on sent ce moment où la tsunamite va déposer son enfant sur le lit. Elle n'est pas encore dans le tout va bien complètement. Elle l'était au moment où elle espérait qu'il allait reprendre force, courage, quand elle le serrait dans ses bras. Mais au moment où elle le pose sur son lit, elle est dans l'état où j'étais, dans l'état où on est parfois, où tu as été, où on se dit, mais Seigneur, c'est plus possible. Alors ça peut être la vieillesse, ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'une espérance qui nous plonge dans ce sentiment que tout est foutu et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais mes amis, mes frères et sœurs, c'est sur le lit, dans la présence de Dieu, au cœur de cet espace où le transfert peut s'opérer, même s'il ne s'opère pas au moment où on le veut, qu'est la bonne place de la douleur, la bonne place de l'échec, de ce « j'en peux plus ». Et je crois qu'aujourd'hui, il y en a au milieu de nous qui n'en peuvent plus et qui ont besoin de déposer sur ce lit, sur ce lieu de repos, ce qui leur fait si mal. Alors moi, ça a été une année terrible. Cette femme, ça a été 30 kilomètres à pied. Il y a aussi tout ce temps nécessaire pour que Dieu agisse et œuvre dans nos cœurs. Mais ce temps produira quelque chose de bon dans la mesure où il est utilisé par Dieu parce qu'on permet qu'il soit utilisé par Dieu pour que le Saint-Esprit nous tienne debout malgré tout et qu'il organise les choses, qu'il les organise à sa sauce, à sa façon pour que le miracle se produise. Si tu avais été là, disent Marthe et Marie à Jésus, mais notre frère ne serait pas mort. Mais ce temps où Jésus marche, fait autre chose, contribue à un travail dans le cœur de Marthe et Marie, mais pas que. Peut-être même dans le cœur de Lazare. Puisque Jésus nous dit qu'il n'est pas mort, mais qu'il dort. Le diable parfois nous trompe, nous fait croire que tout est mort. Mais la puissance de vie, n'oubliez pas l'histoire du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour reprendre vie. Le diable est un menteur et il te ment et il me mentait, il me faisait croire que tout était fini. Cette femme dépose l'objet de ses larmes, de sa douleur sur le lit et elle se met en route. Elle se met en route vers celui qui a fait la promesse, vers le donateur. Tourne ton regard vers le Seigneur quand t'en peux plus. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Rien ne nous fait pressentir même qu'elle espère qu'il va guérir. elle va vers l'auteur de la promesse. Quand tu vas pas bien, quand tu n'en peux plus, tourne les yeux vers ton Seigneur. Et puis, cette histoire nous renvoie aussi à quelque chose qu'on oublie souvent. Parce qu'on a l'impression que c'est la foi de cette femme qui va la pousser jusqu'au pied d'Élisée et qui va faire qu'elle le ramène à la maison. Alors, c'est pas faux. Et on l'admire. Et on se dit, génial, qu'est-ce que je voudrais lui ressembler ? Et on va se dire, je veux avoir son caractère, sa bonté, sa détermination. Oui. Ce qu'on oublie, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Et dès le début, elle n'est pas toute seule. Alors, il y a un zoom sur elle pour nous raconter cette histoire. Mais là encore, attention à ce que le diable ne nous déforme pas les choses. Et c'est pour ça que c'est important de méditer la parole de Dieu, de creuser, de fouiller. Dès le départ, rappelez-vous, elle est avec son mari. Elle invite Élisée et Géasi, mais elle construit cette petite chambre avec son mari. Ils sont tous les deux, il est OK. Ce lit, cette table, cette chaise, cette lampe, tout ça s'est mis en place en équipe. Et puis ensuite, le miracle, alors là, n'en parlons pas. Il y a Élisée, il y a Géasi, il y a Dieu au-dessus de tout ça, parce qu'il n'y a pas de miracle sans Dieu, mais il y a Dieu, il y a un prophète, il y a le collaborateur du prophète, son assistant, son ancien, son diacre, son serviteur, comme vous voulez, son compagnon de prière. Et puis il y a cette femme et son mari, et puis il y a leur couple pour faire un bébé. Il y a le miracle parce qu'il est âgé, son mari, mais quand même, il n'y a pas marqué qu'il y a une conception surnaturelle. Il y a juste un miracle. Et puis ensuite, pour élever cet enfant, il y a quelque chose d'une collaboration en cette femme. Son mari, c'est des gens riches qui ont quasiment une petite communauté avec eux puisqu'on découvre qu'il y a des serviteurs. L'enfant est au champ, il apprend à travailler, il prend part dans la vie de famille. Et au moment du drame, avant le drame même, hein, on se rend compte de la complicité, de l'intimité entre cette femme et son mari, puisque l'enfant a mal à la tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Le papa confie son enfant à un serviteur qui l'emmène à la mère. Et puis ensuite, hein, elle fait prévenir son mari qu'elle s'en va. Un serviteur va sceller l'ânesse. Même une ânesse, comme le petit âne dans les évangiles. Eh oui, on a besoin de toute une équipe pour avancer. Il y a besoin que chacun soit à sa place. Alors on va dire, mais pourquoi elle ne dit pas à son mari que son fils est mort ? Mais parce que ce n'est pas le temps, parce qu'il y a quelque chose d'une collaboration qui fait que chacun est à sa place, mais que tout est relié. Tout est relié. Et je vous assure, mes bien-aimés, que quand on traverse des moments difficiles, on ne mesure pas à quel point, si chacun est à sa place, si chacun est relié à l'autre, en lien avec sa mission, son statut, ce que Dieu a mis dans son cœur, si tout ça ne fonctionne pas, la foi de notre petite dame ne lui aurait peut-être jamais permis d'aller jusqu'au bout. Parce que la foi, c'est quoi ? C'est cette espérance qui nous relie à Dieu, mais qui va se traduire par du concret sur notre terre, dans notre humanité. Cette foi, c'est ce qui va nous donner une énergie et une capacité à nous frayer un chemin sur la terre dans lequel le divin va se manifester. Fallait faire les 30 kilomètres. Elle avait besoin de prévenir son mari. Elle avait besoin de ne pas l'inquiéter. Si on ameutait tout le monde, c'était les pleureuses qui arrivaient et elle n'irait pas jusqu'au bout de là où elle voulait aller. Elle avait besoin d'une ânesse pour faire les 30 kilomètres. Et puis d'un serviteur qui la conduit, c'était dangereux. Oh moi, après mon opération, j'ai eu besoin de mon mari, de mes enfants. Des enfants accueillis, tout cassés, tout abîmés. qui d'un coup ont changé de statut quasiment. Parce qu'en plus, ils ne voulaient pas quitter la maison, se poser le problème professionnel, qu'est-ce qu'on fait ? Donc d'un coup, plus personne bronchait. Hein ? C'était un « non, tata, tu ne nous laisses pas ». Et moi, j'étais au fond de mon lit, je disais « mais je ne peux même pas leur faire à manger ». Je vous assure, il y a eu une dynamique autour. Et puis, il y a eu la force des intercesseurs. Mais tout ça, je ne le mesurais même pas à ce moment-là. Et parfois, je pestais. L'Église ne me comprend pas. Il y a eu encore une parole malveillante. Mon mari m'oblige à aller au culte alors que je voudrais rester au lit. Les gamins font du bruit alors que j'ai la migraine. C'est-à-dire, vous savez, il y a ces moments où, en plus... On se dit déjà, je tiens bon alors que j'aurais envie de mourir. Et en plus, on se sent seul. Comme Élie qui pensait que tout le monde avait cédé et qu'il était seul. Vous vous rappelez, il va se cacher dans sa grotte. Oh oui, moi je me réfugiais dans ma grotte et je voulais mourir. Mais c'est du mensonge de l'ennemi. Tu n'es pas seul. Et puis même si ton église est imparfaite, ton réseau, ton mari, tes enfants, ton ami le plus intime... Oui, dans tous les cas, sur terre, tout n'est qu'imperfection. Mais Dieu va faire avec tout ça, parce que tu es en lien avec, parce que Dieu l'a voulu, il va faire avec tout ça un mécanisme qu'il va huiler pour que le miracle se produise. Alors, elle a mis son chagrin au bon endroit. Elle a mis l'objet de son deuil au bon endroit. Tout se met en route autour d'elle et elle utilise tous les rouages possibles. Elle actionne tout ce qui est possible pour aller vers celui qui est le porte-parole de cette promesse qui s'est envolée. Elle ne veut pas être dérangée en route. Elle ravale sa salive et elle prononce ses paroles plusieurs fois. Tout va bien. Ce n'est pas du tout les mêmes mots que ceux qu'elle a prononcés quand Élisée lui a fait demander par Géasi de quoi elle avait besoin. « Je suis heureuse au milieu de mon peuple. » C'était le contentement. Mais là, on passe à autre chose. On n'est plus dans le contentement, on est dans quelque chose qui contient une douleur, des sentiments qui ne doivent être exprimés que dans la présence de Dieu et qui doivent, j'allais dire, être mâchés, qui doivent être répétés. Tout va bien parce que mon Dieu est avec moi, tout va bien. Et même quand je m'endormais en voulant mourir, il y avait aussi ce tout va bien parce que Seigneur, tu es là. Et que si je m'endors, je pars dans ton royaume. Mais le Seigneur continue à faire son travail dans mon cœur. Et il utilisait mon mari, qui à un moment donné me réveille un peu et me dit, tu sais, c'est bien, oui, en effet, dans la présence de Dieu, il n'y aura plus de douleur, tu ne seras peut-être plus un poids pour nous parce qu'on ne pleurera plus sur ton drame, celui de la perte de ta vision et du sentiment de honte qui te traverse. Mais si ce n'est pas le temps où Dieu t'appelle à lui, cette envie de mourir ne vient pas de lui, alors c'est ta paix, c'est ton salut qui est en cause. Et là, d'un coup, il s'assoit dans le lit et il me dit, mais tu sais, hein, ce n'est pas l'aspiration à la présence de Dieu, c'est un esprit de suicide qui te bouscule et ça, ce n'est pas bien. Et là, mes yeux sont ouverts. Vous savez, on ne voit bien qu'avec le cœur. Hein, il y a quelque chose de l'ordre d'une guérison intérieure qui s'est produite. Je n'étais plus de nouveau dans l'obscurité totale. Je voyais à nouveau. Je découvrais que l'esprit de cécité avait envahi mon cœur plus que mon organe physique et que ça, je saurais gérer. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu redresser la tête et ne plus me victimiser par rapport à quelque chose que Dieu allait me permettre de gérer, mais je voyais à nouveau, les esprits de mort étaient partis. Alors, ça a été encore un long chemin. comme cette femme. Il a fallu se remettre en selle. Il a fallu réapprendre à vivre autrement, entendre la voix de Dieu autrement. Mais je crois que pour nous, dans notre ministère et dans tout ce qu'on vivait, ça a été une nouvelle étape. Ça a été aussi cette étape qui a vérifié notre attachement à Dieu, qui a vérifié si notre ministère, notre engagement, le bonheur que l'on avait aussi à accueillir les enfants, à vivre tout ce que Dieu nous permettait de vivre, est-ce que c'était plus que cette relation à Dieu ? Est-ce que ça ne prenait pas une place plus importante que l'auteur de la bénédiction ? Vous savez, parfois, on s'attache tellement au bébé que Dieu nous a donné, au conjoint, au ministère, au même changement de vie et de statut. Hein. J'ai donné mon cœur au Seigneur, je me suis fait baptiser. Ouah, c'est génial ! Et d'un coup, on voit la vie transformée, la belle vie dans la communauté. Et puis, je crois qu'il y a ces moments où tout est secoué. Qu'est-ce qui était le plus important pour cette femme, pour cet homme ? Cet enfant que Dieu leur avait donné, cette vie, ou l'esprit de vie qui s'était manifesté, qui leur avait fait toucher du doigt la toute-puissance de Dieu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce chemin vers le prophète a mis au travail chez cette femme des choses extraordinaires. Et elle arrive là, 30 kilomètres, en ayant laissé à la maison, hein, dans la chambre, sur le lit, l'objet de sa joie, le fruit de ses entrailles, le fruit de la promesse. Et elle arrive et qui l'accueille ? Notre cher Géasi, qu'elle connaît bien. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il l'attrape un peu brutalement, il la repousse. Vous savez, c'est ces moments où on a l'impression que là, on touche du doigt le but. On a séché ses larmes, on est enfin là, relevant la tête. Et puis, c'est de la faute de l'Église si j'ai abandonné le Seigneur. Hein. Puis, c'est de la faute de mon frère ou de ma sœur, là. Sa parole malveillante, elle a détruit mon enthousiasme, mon engagement. Oh là là, des Géasi, il y en a partout. Hein. Il y en a dans ta maison. Il y en a dans ton réseau. Pardon pour le réseau. Il y en a dans ton église. Il y en a partout. Ils viennent et ils te repoussent. Rappelez les disciples. On vient amener des enfants à Jésus. Et il les empêche, là. C'est pas le moment. Ça... Et puis nous, parfois, parce qu'on est repoussé, parce qu'il y a une parole blessante, on justifie notre stop, notre arrêt, notre demi-tour à cause d'eux. Cependant, Géasi, c'était pas sympa du tout ce qu'il faisait là. Peut-être que dans un autre temps et à un autre moment, la Bible ne nous le dit pas, mais qu'il a eu un entretien avec Élisée et qu'Élisée lui a dit quand même, là, tu as été un peu rude. Hein? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette attitude, au lieu de décourager cette maman éplorée, ça l'a, comment dire, ça lui a donné l'énergie du désespoir. Et elle tombe aux pieds d'Élisée. Ton énergie du désespoir, ce n'est pas dans les hommes qu'il faut que tu la mettes, mais c'est en Dieu. Et les hommes pourront te décevoir, les femmes aussi. Hein. Et le contexte de vie en communauté, en église, dans ce monde, à ton boulot, peut te décevoir, peut te faire frémir à un moment et vaciller. Mais Dieu ne te trompera jamais. Mais Dieu ne te repoussera jamais. Jamais il ne te repoussera. Jamais il refusera d'accueillir tes larmes, ton cri de désespoir. Jamais. Et cette femme est là au pied d'Élisée. Élisée est un homme de Dieu. Et pourtant, malgré tout, s'il l'accueille, s'il pose un regard bienveillant sur elle, il n'a pas compris encore l'objet de sa détresse. Ça, c'est, je veux dire, ça nous renvoie aussi à toute notre attente dans les humains, dans nos compagnons de prière, dans nos pasteurs. On a parfois une attente démesurée. Ils sont importants et, j'ai envie de dire, indispensables. C'était indispensable que cette femme aille jusqu'à eux. C'était indispensable que Marthe et Marie aillent faire chercher Jésus. Ne rejetons pas cette dimension humaine qui est la nôtre. Ces mots qui nous traversent, ces questionnements. Moi, souvent, je dis que le doute, il va avec la foi. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, en m'appuyant sur ce petit verset, que j'ai fait le mien, « Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Ouais, ben c'est un cri de foi. Mais moi, je crois. Mais Françoise, humaine, elle pleure. Elle s'assoit, elle veut tout arrêter. Mais les deux, ensemble, touchent le cœur de Dieu. Touchent le cœur de Dieu. Et notre femme, là, avait compris qu'il fallait aller jusque là où elle devait aller en passant par ce que Dieu avait envoyé pour la bénir. Parfois, nous nous trompons. On arrive à se faire une théologie, comment j'ai envie de dire, pour éviter de souffrir. Ah ben non, il ne faut surtout pas donner le sujet de prière à l'Église, hein, parce que s'ils le savent, combien on se bat, nous, ça, dans notre communauté, parfois, ou alors ils viennent le dire au pasteur, en disant, mais personne ne doit le savoir. Alors qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu pries, mais je veux que personne le... Nous, on travaille en équipe, on a des intercesseurs, on a des sentinelles. Tu veux que Dieu agisse ou pas? Oui, mais je veux que personne ne le sache. Peut-être que le Saint-Esprit, lui, c'est par la bouche d'un de tes frères et sœurs qu'il va être mobilisé. On essaye de prendre des images. Et puis pire encore, parce qu'encore quand c'est comme ça, on arrive à travailler les choses, mais combien de frères et sœurs, combien, peut-être au milieu de nous, se disent, mais c'est mon problème et celui de Dieu. Et j'en parlerai pas. Et en restant seul, tu fais durer une épreuve dont Dieu veut te sortir par l'utilisation de cette chaîne d'amour que Dieu a voulu pour nous. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, on cite souvent ce verset pour les bénédictions de mariage, hein, mais ça ne veut pas dire ça, comme ça, uniquement. Alors c'est une bonne chose de le citer pour le couple, dans ce que Dieu a voulu pour l'homme, la femme, dans la complémentarité. Mais ça vaut de façon bien plus large. Jésus envoyait ses disciples deux par deux. On ne peut pas être un chrétien seul. On ne peut pas remporter des victoires tout seul. Jésus lui-même va réveiller ses disciples. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, il va réveiller ses disciples pour qu'ils prient avec lui. C'est une des clés ce matin pour chacun d'entre nous. Tu dois être relié aux autres, avec des gens qui prient avec toi, pour qui tu pries. On doit, voilà, la bienveillance, c'est bien veiller sur l'autre et c'est laisser l'autre bien veiller sur moi. Et c'est aussi toute la pertinence d'un réseau. Il y a quelque chose d'une force dans la louange qui monte jusqu'à Dieu, mais dans la prière et dans l'intercession aussi. Et puis ensuite, dans un autre élément, c'est la stratégie divine. Je crois vraiment à la stratégie divine. Il y a quelque chose qui se met en place dans cette histoire que je vous encourage à lire et à relire et à méditer, qui met au travail comme ça une petite armée. Et là, Élisée envoie son serviteur, hein, son compagnon de route, sur qui il y a vraiment une délégation d'autorité spirituelle, il y a une vraie onction sur Géasi. Donc Élisée, naturellement, envoie son collaborateur, puis avec le bâton, quoi, avec la procédure, le savoir-faire. Peut-être chez nous, c'est avec l'onction d'huile, la petite fiole d'huile, l'imposition des mains, enfin que sais-je, peu importe. Mais ça, je trouve que c'est bouleversant la façon dont cette mère procède. Elle s'accroche à Élisée. Et elle lui dit qu'elle ne le lâchera pas. Et on va terminer ce matin sur cette partie-là. C'est celle de Ruth, vous vous rappelez ? Je ne te lâcherai pas. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Il y a quelque chose d'une détermination dans ce contact avec Dieu, avec la présence de Dieu qui ne passe plus là par un tiers, même si on a besoin les uns des autres, qui fait qu'on va être connecté avec celui que Dieu envoie pour nous ou celle pour que dans cet accord, dans cette unité précieuse, voulue de Dieu, qui passe de l'amitié, de la collaboration à une vraie communion qui va nous entraîner vers quelque chose de plus haut, de plus fort. C'est ce moment où Marthe et Marie sont aux pieds de Jésus et après avoir versé leurs larmes, eh bien, abandonnent tout et lui font confiance pleinement. Ce matin, fais confiance à ton Seigneur. Relève-toi. Donne-lui le bras. C'est plus lui qui te tient la main comme le jour où tu es sorti des eaux du baptême. C'est toi qui t'accroches à lui et qui lui dis malgré tout, je ne t'abandonnerai pas. Malgré tout, je n'arrêterai pas mon service. Malgré tout, je crois en tes promesses. Peu importe la forme qu'elles prendront. Vous remarquerez, elle ne lui demande pas de guérir son fils. Il y a l'expression de la douleur et il y a « je ne te laisserai pas. Je ne reviendrai pas sans toi. Tu vas venir voir au cœur de ma douleur. Tu vas revenir là où tu as une place. Tu vas revenir au pied du lit. Tu vas regarder là ce qui ne va pas. J'ai besoin de ton regard. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin que tu interviennes. Mais pour moi, c'est moi qui m'attache à toi. C'est moi qui ai besoin de comprendre quelque chose. Alors ce matin, je crois que c'est cette nouvelle dimension aussi spirituelle que Dieu veut pour toi. Tout va bien si tu es attaché au Seigneur. Ce tout va bien qui ne nie pas ta douleur. On est passé du manque à la douleur profonde. Tout va bien. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas un masque, une façade. C'est un tout va bien parce que je suis attaché à mon Dieu. Et que même si mon enfant est mort, même si j'ai tout perdu, même si je ne comprends rien, dans ce tout va bien, il y a « je m'en remets à toi, l'auteur de la vie. Je ne m'attache plus à ce que j'ai perdu, mais je m'attache à celui qui tient ma vie dans ma main. » Ce n'était pas le moment que je meurs, ce n'est pas le moment que je m'endorme après mon opération. C'était le temps d'une remise en question totale de ma foi, de mon rapport au ministère, de mon rapport même aux fruits du travail de notre ministère, de nos mains. C'est difficile quand notre ministère porte du fruit. Quand on a des enfants qui nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, cassés, blessés, qui sont transformés, qui trouvent Jésus. Quand tout va bien, au sens humain du terme, et puis que tout s'en va, et qu'on a l'impression que on ne peut même plus voir le fruit. Ce fruit devient même amer parfois. J'entendais les cris, les rires des enfants, la table dressée, et j'étais dans mon lit, et même ça, c'était douloureux pour moi. C'est-à-dire le fruit, la bénédiction devenait terrible. Il fallait que j'abandonne aussi l'attachement à ce que Dieu nous avait donné pour recomprendre la réalité de la plénitude, de l'amour de Dieu et le sens de ma vie, le sens de notre vie, pour reprendre la route autrement. C'était un nouvel encensement, ensemencement, au fond. C'était autre chose, comme pour la tsunamite. Premier attouchement divin, c'était ce bébé, cet enfant qui a grandi. Deuxième attouchement divin pour cette femme comme pour moi, c'était que la vie, ça n'a rien d'humain, de visible, de terrestre. C'est plus, c'est intérieur, c'est invisible. Et j'étais vraiment guérie de ma cécité à ce moment-là. Je ne vois toujours pas. C'est bien galère, je vous assure, des fois, quand je loupe une marche, je tombe. Je me suis cassé la cheville, là, il y a un an. Mais est-ce que la vue, c'est mes yeux? Est-ce que ce qui doit faire ta joie, c'est ce que tu possèdes, c'est ce que tu as? Est-ce que c'est ton service, ton ministère? Non, la vie, c'est ce qui t'habite. Vous êtes peut-être plus aveugle que moi ce matin. Plus sourd que mon mari. Il n'entend pas bien. On a besoin de cet attouchement divin du Seigneur. Et on parlera demain matin de cet attouchement, de ce qui s'est passé au retour d'Élysée, avec cette petite dame qu'on cite comme une dame de foi, mais au fond qui était juste une petite bonne femme toute simple, comme toi. Ça aurait pu être un petit bonhomme. Son mari était au champ, il gagnait la croûte, hein, il bossait dur, mais il est pleinement associé à tout ça. Une petite bonne femme, toute simple, qui s'était contentée de ce qu'elle avait et qui, taraudée par la douleur, a déposé dans ce lieu béni ce qu'elle avait perdu pour s'attacher à celui qui savait donner la vie, une vie qui dure jusque dans l'éternité. Amen. On prie. Seigneur, merci parce que tu as ouvert les yeux de mon cœur. Merci Seigneur parce que si on perdait tout, si tout nous était enlevé, comme pour Job, alors cette puissance de vie que tu as mis en nous nous donne de ne pas céder à la tentation d'entendre la voix du diable qui veut nous détruire et nous faire croire que notre place est dans le tombeau. Non, Seigneur, tu as vaincu le tombeau. On a chanté que la croix n'a pas dit son dernier mot parce que tu es descendu de la croix, parce que tu as été jusque dans les antres de la terre. Et parce que tu as vaincu la mort et que tu es ressuscité. Seigneur, nous sommes ressuscités avec toi déjà, présentement, maintenant. Et cette puissance de vie, alors, est plus forte que ce qui nous semble faire répondre à nos besoins les plus légitimes, sur un plan humain et sur un plan spirituel. Mais la seule chose qui est légitime pour nous, c'est cette assurance que notre nom est inscrit dans le livre de vie et que nous vivons pour l'éternité dès à présent. Et que dans ce dès à présent, eh bien, il y a aussi tout ce qu'il nous faut pour vaincre la mort, vaincre les pièges de l'ennemi, pour marcher avec toi en ayant conscience que oui, si la croix n'a pas dit son dernier mot, tu n'as pas dit ton dernier mot. Et en ayant cette réalité attachée à nos cœurs, à nos pensées, dans cet aspect holistique dans lequel nous sommes, corps, âme et esprit, eh bien, tu nous permets, après ce long chemin, plein de larmes, de douleurs, tu nous permets de repartir avec toi, assurer que le miracle est en route sous la forme que tu as choisie, avec les outils, le mode d'action que tu as choisi. Pas forcément le bâton d'Élisée dans les mains de Géasi. Pas forcément tel qu'on peut l'imaginer, y compris dans nos cultures évangéliques. Mais Seigneur, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit, et nous le proclamons encore ce matin. Je le proclame. Seigneur, pour tous mes bien-aimés anciens dans le ministère, pour tous ceux qui se sont donné tant de peine pendant tant d'années, et qui attendaient peut-être sans même le savoir aujourd'hui une nouvelle parole, un nouveau réma, une nouvelle promesse, quelque chose, un nouveau souffle. Seigneur, bénis mes bien-aimés. Je te prie aussi pour ceux qui sont là peut-être un peu comme propulsés, parachutés, dans un temps dont ils ne connaissaient pas tous les contours. Seigneur, oui, des bébés dans la foi peut-être. Des personnes qui sont juste là pour toucher ton vêtement et attendre une guérison, une parole sans te connaître vraiment. Seigneur, que la puissance de vie qui est en toi et que tu mets en nous leur soit transmise. Oui, Seigneur, que les yeux de leur cœur s'ouvrent et qu'ils voient. Oui, Seigneur, tu es le Dieu du miracle et tu agis maintenant. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus.